Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence donc, qui va surtout être une découverte pour ceux qui ne le connaissent pas encore de l'univers d'Outzer, donc un univers créé par Fibre Tigre ici présent.
Bonjour, oui, alors...
Bonjour.
Donc, quand vous entrez aux Utopial, juste à gauche, il y a une belle exposition avec des belles images sur un jeu vidéo qui s'appelle Out There, que vous avez peut-être, ou que vous avez peut-être découvert à l'occasion. Et c'est quelque chose qui est assez vieux, qui date de 2014. Et c'était mon premier jeu commercial, mais j'ai fait quand même 15 ans de jeux expérimentaux avant. Et il a eu un petit succès, et il a eu droit à des spin-offs par la suite. J'explique le début ou voilà.
Bah, déjà présente l'univers, effectivement, le concept même de l'univers d'Outzer.
D'accord.
Qu'est-ce que tu as eu envie de raconter à travers cet univers ?
Quand on fabrique un jeu vidéo, il y a une phase de world building, c'est-à-dire qu'on va construire un univers. Récemment, j'ai fait une mission de consulting pour un univers, et avant même de définir les noms des planètes, les castes qui les régissaient, tout ça, j'ai commencé par dire, bon, la structure de l'univers est un petit peu différente, il n'y a pas d'atomes, il y a des filaments, par exemple. Voilà. Bon. Et là, en l'occurrence, on a fait quelque chose de plutôt simple, c'est que la colonne vertébrale de l'univers Out There, c'est une relative rigueur scientifique. C'est-à-dire que on essaye de, quand, dans le doute, on se réfère à la science, et on essaye de décrire l'univers tel qu'il est réellement. C'est profondément déprimant parce que il n'y a rien de plus horrible et déprimant qu'un livre d'astrophysique qui vous explique que quoi qu'il arrive, un jour il n'y aura plus rien. C'est-à-dire qu'un jour, le dernier atome va disparaître et il n'y aura plus rien. Tout ce que vous avez fait n'aura eu aucun sens. J'étais en pleine dépression à l'époque, ça allait très bien avec mon état d'esprit. Et du coup, on a fait un jeu qui était empreint de réalisme scientifique, un bonhomme dans son vaisseau spatial, et il n'a pas du tout de laser, parce que le laser, c'est pas quelque chose qui... Déjà, il n'y a pas d'extraterrestre à combattre dans Out There, parce que si on rencontre la vie intelligente, non seulement elle sera peut-être pas belliqueuse, mais en plus... Le concept de guerre sera tellement étranger à cette entité qu'il n'y aura même pas à la combattre, ou elle nous ignorera tout simplement. Une approche un petit peu Lovecraftienne. Et le problème de cette personne, c'est qu'il est tout seul. Voilà. Et on raconte, c'est un jeu qui parle de la solitude. Et il a ceci de particulier, c'est qu'il se passe à une période de l'histoire de l'humanité qui est dans 5 milliards d'années, donc pas une date qui est prise au hasard. Dans 5 milliards d'années, ce sera le moment où notre soleil va s'éteindre, donc quoi qu'il arrive, on sera ailleurs, on est loin de la fin des temps, mais on est quand même très très loin, puisque les naines jaunes comme notre soleil seront éteintes. Donc on est quand même dans un endroit où l'univers va devenir quelque chose d'assez hostile à vivre, et on explique qu'à ce moment là le monde sera tellement différent que on se sentira très seul, ce sera difficile à vivre. Voilà. Donc l'univers d'Out There, il y a deux univers. Donc il y a cet univers très qui se passe dans 5 milliards d'années, qui est très physique, qui est très décrit à la Star Trek Classics, c'est-à-dire qu'on vit des aventures, mais je rencontre un nuage d'alcool dans l'espace, je rencontre une abîme géante sur une planète, je rencontre des extraterrestres qui parlent un langage incompréhensible, et on fait son chemin. Aucune question n'est révélée. Dans les années 50, c'était toujours point d'interrogation à la fin de l'épisode. Et là, c'est un petit peu cette idée-là qu'on a gardée dans Out There, c'est-à-dire que les aventures se terminent un peu en queue de poisson, mais c'est fait exprès. Voilà. Donc ça, c'est un jeu qui a très bien marché, bizarrement, malgré les thèmes très tristes. Mais c'est important de le dire, 40% de nos ventes sont faites en Russie, qui est un pays normalement assez hermétique à la culture occidentale, parce qu'il est assez il mange des produits russes et à base de Kalachnikov, mais ils ont retrouvé le mythe de Yuri Gagarin dedans, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout seul, qui répare son vaisseau, qui attend la mort et qui arrive que des ennuis, quoi. Et donc un petit peu de mélancolie russe, ça a très bien pris, et du coup le jeu a bien marché, et on m'a demandé, vous pourrez tester, de faire une suite. Et du coup on l'a placé dans un autre contexte temporel. Donc là, le premier était dans 5 milliards d'années, Et l'autre, il est un peu plus intéressant, il est dans 1 million d'années. Donc on est dans un abîme du temps, du futur, mais on est quand même dans du... Enfin, le monde, l'univers, la structure de l'univers n'est pas en danger. Il y aura encore des étoiles, il y aura encore notre soleil, tout ira bien. Et plus précisément, c'est la confrontation entre un homme d'aujourd'hui, qui a nos référents culturels, et une société qui a évolué, une société d'humains qui a évolué pendant 10 000 ans. Donc il y a ce gap temporel. Et effectivement, en 10 000 ans, je me suis posé la question, donc, quelles sont les choses qui changent en 10 000 ans ? Donc, déjà, la forme des gens change. Suivant qu'il suffit que vous viviez sur une planète légèrement, avec légèrement moins de gravité pour que les gens deviennent plus longs ou plus trapus s'il y a un peu plus de gravité. Le langage change énormément. En 100 ans, le langage... il y a 200 ans, on disait le roué, c'est moué, tu vois, pour dire le roi, c'est moi. Donc, imaginez dans 10 000 ans. Donc, là encore, il a fallu trouver des astuces pour que le langage soit consistant. Et aussi, dans Outer Chronicles, ce qui a été intéressant, c'est de raconter le quotidien d'une société du futur. Le quotidien, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les menstruations en l'an 10 000 ? Est-ce que les femmes ont encore leurs règles ? Qu'est-ce que c'est la contraception ? Qu'est-ce que c'est que manger en l'an 10 000 ? Et qu'est-ce que c'est même la sexualité ? Est-ce que l'objectif était de maintenir la thématique de solitude du premier ? En fait, j'avais ce problème-là qui était, je veux raconter une histoire avec des humains, mais je veux avoir la solitude de quelqu'un qui est tout seul. Et en fait, tout simplement, je l'ai mis dans une société qui était dans le futur. Et des choses aussi simples que manger une tomate, c'est compliqué. Voilà. Parce que quand ils découvrent une tomate pour la première fois, les gens du futur, ils appellent ça un ovaire du plant de tomate. Et ils trouvent ça... Et du coup, la pizza, c'est une tarte à la tarte aux ovaires. Et il dit, j'ai plus envie de manger de pizza. Mais bon, c'est des petits détails. Donc, on essaie de raconter une société du futur. L'univers d'Out There et Out There Chronicle, c'est un univers qui est dominé. Alors, on a un problème. Nous, chez Miklo, on essaie de faire des jeux qui sont français. Enfin, disons européens. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, on ne veut pas faire des jeux américains. Et des jeux américains... Alors, on ne veut pas faire des jeux américains, ce n'est pas parce qu'on déteste l'Amérique, au contraire, mais on pense que les Américains qui correspondent, qui sont nos autres 40% de notre marché, seraient intéressés d'acheter des jeux qui ne seraient pas à même eux-mêmes de produire. Et donc, l'Amérique, c'est deux choses. C'est on tue des gens avec des armes. C'est des choses qu'on ne voit pas en France, mais qu'on voit régulièrement aux États-Unis. On a aussi des... Ils se vengent. C'est très, très américain de se venger. Et la relation marchande est sacrée. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, normalement, quand vous avez tué quelqu'un avec une Kalachnikov et que vous avez trouvé de l'argent sur le cadavre de la personne que vous avez tué, je raconte des choses qui sont dans tous les jeux vidéo, hein, c'est fou, vous allez voir le marchand et vous achetez une arme qui est plus puissante. Or, vous pourriez tuer le marchand et prendre son arme, ce serait beaucoup plus rapide. Mais le marchand est invincible parce que la relation marchande, elle est sacrée. Et du coup, moi j'ai dit à Michael, je t'ai averti, on fait des jeux ensemble, mais pas d'argent. Pas de combat. Et ça, c'est un peu notre dogme. C'est-à-dire, dans tous nos jeux, on a 3-4 jeux. Il y a strictement pas de combat et strictement pas d'argent. Et à chaque fois, c'est un peu marrant parce qu'on glisse des dollars sur la table ou des armes, mais on n'a jamais la possibilité de rentrer en combat armé ou de faire des transactions. Voilà. Et effectivement, Out There Chronicle raconte l'histoire d'une civilisation pangalactique où l'humanité est vraiment correspond à 1/1 milliardième de la population totale, et la majorité des gens ne savent pas ce que c'est qu'une relation marchande. Voilà. Ils ne savent même pas ce que c'est que la propriété. C'est s'il y a un vaisseau spatial qui est là et qu'ils en ont besoin, ils le prennent. Et s'ils n'en ont pas besoin, ils le laissent et vous pouvez le prendre. Voilà. Donc c'est des choses qui ont été intéressantes à écrire. Et qui font leur petit bonhomme de chemin, puisque ce sont des visions pas communistes ou socialistes, mais en tout cas différentes des présentations américaines classiques. Voilà, pour résumer les grandes lignes des définitions d'Out There.
Et du coup, ce qui est intéressant aussi sur Out There, je trouve, donc tu en as parlé un peu, c'est son déploiement sur plusieurs opus déjà de jeux vidéo, avec des formes de jeux différentes. Peut-être justement préciser aussi les... Comment tu as pu gérer la consistance de cet univers,
ouais,
entre les différents jeux, donc avec des temporalités très différentes et puis des systèmes de jeu, des mécaniques de jeu très différentes aussi.
Alors ça reste deux jeux vidéo déjà, c'est une chose, et ils sont tous les deux très différents. Donc dans le premier, je vais raconter la réalité de ce que c'est d'être un astronaute, quelle que soit l'époque d'ailleurs. L'espace c'est quelque chose de profondément hostile à l'homme. On peut pas y vivre, on peut pas y respirer, il fait très froid. Il y a des rayons cosmiques qui vous donnent le cancer, qui vous font perdre vos cheveux, qui vous rendent aveugle. Il y a un météorite qui peut, même tout petit, qui peut passer à tout moment et vous transmettre. Donc là, vous êtes en état de vie temporaire. Quoi. Et il a fallu. Donc ce qu'on a fait, c'est on a créé un jeu déjà qui mettait en avant l'intelligence et la débrouillardise de l'homme face à un. On est sur notre île déserte qui est un vaisseau spatial et on va essayer de trouver à manger. Donc on a peu d'espace, on a vraiment peu d'espace. Quand vous jouez à ce jeu-là, vous me maudissez parce que vous dites « j'ai pas assez d'espace dans mon vaisseau, je voudrais mettre un gros réacteur, mais j'ai pas la place pour l'oxygène. Voilà. » Donc c'est compliqué, il n'y a jamais assez d'espace. Et on revit un peu l'histoire de Yuri Gagarin. Et quand on rencontre enfin, alors on trouve une planète, on trouve plein de planètes, jardins, et on rencontre la vie. Et quand on raconte des espèces extraterrestres, on a voulu les faire et ça a été vraiment très très difficile. L'objectif c'était de faire des races extraterrestres inimaginables et surtout pas anthropomorphes. Donc j'ai commencé à faire faire des races extraterrestres folles. Par exemple, une race extraterrestre inconcevable qui est c'était un écho qui se baladait dans une ville, dans les ruines d'une ville. Et on m'a dit, bah, je peux pas le dessiner, on fait quoi? Donc il a fallu faire des choses dessinables. Donc ça a été. Et alors c'est marrant parce que quand on raconte des concepts, je donne des concepts, je dis voilà, c'est un extraterrestre qui ressemble à ça. Souvent les dessinateurs, les concept artistes, ils me rendaient des choses assez sexuelles, on voyait des vulves ou des pénis. Vous savez ça? Parce qu'on finalement, on retrouve des choses hyper fondamentales de la psyché, tu vois. Faites cet exercice si vous êtes dessinateur ou artiste. Dites-vous, je vais dessiner un extraterrestre qui soit le plus éloigné possible de l'homme. C'est vraiment un exercice très, très compliqué. Donc, vous rencontrez cet extraterrestre complètement improbable et il commence à vous parler en alien. Alors, il parle dans une langue qui est en plus générée procéduralement, c'est-à-dire on génère des mots au hasard au début de chaque partie, donc vous ne pouvez pas les noter d'une partie à l'autre. Et il vous pose la première question qui est « Salut, est-ce que tu as un ami ?» Tu peux répondre oui ou non. Mais parfois, il pose la question « Salut, est-ce que tu as un ennemi ?» Donc, en fait, au début, on dit oui au hasard ou non, un peu comme un vrai explorateur. Et en fonction de la réponse extraterrestre, on sait si le mot, c'est vraiment ami ou ennemi, tu vois. Et on commence à les noter un par un, comme ça. Et effectivement, ça commence à être un jeu qui respecte cette philosophie de Star Trek classique, c'est des pulps un petit peu pacifiques des années, fin des années 60, mais aussi cœur des années 60, c'est-à-dire l'autre. C'est peut-être mon ami, c'est peut-être la personne qui va m'aider, même s'il est très différent. Voilà. Donc on va vers l'autre. Voilà. Et le but, effectivement, d'out there normal dans sa mécanique, c'est de survivre le plus longtemps possible, éventuellement de comprendre les tenants de cet univers et en découvrant des choses. Out There Chronicles, c'est un autre jeu. Donc c'est un jeu qui est plus maîtrisé, qui se trouve dans le même univers et qui va dont la trame narrative est imposée. Donc on le vit un peu comme un film en branchement. Et là, j'ai voulu faire ce Star Wars français. Donc un Star Wars dans lequel on va dans des restaurants, on parle menstruation, on parle solitude, et il n'y a pas de combat. Et voilà, donc c'est... Alors, Out There est un jeu qui a été interdit par la Ligue chrétienne d'Amérique. Pour la raison suivante, c'est que à un moment le héros se dit mais je remarque qu'il n'y a pas de croix catholique sur les planètes aliens que je rencontre. Donc si un jour je reviens sur la Terre, forcément ça va toutes ces races intelligentes, ça va remettre en cause la question de l'existence de Dieu tel que nous le connaissons. Et c'est une des idées fondamentales de Out There Chronicles 1. Où le héros est décryogénisé sur une planète très catholique, qui tient sociétalement grâce à une grande foi en Dieu. Et ils sont justement, ils ne sont jamais allés ailleurs parce qu'ils savent qu'il y a un ailleurs qui existe et ils se doutent que peut-être Dieu n'est pas dans cet ailleurs. Et ils veulent pas qu'il y ait cette confrontation des mondes. Moi personnellement, je sais pas je veux pas heurter la foi des gens, mais je trouve que la foi, c'est une chose différente de l'Église, qui est une chose différente de Dieu également. Et la foi, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui brille dans l'adversité et dans le doute. Et effectivement, l'exploration et le constat de la réalité de l'univers nous met dans le doute. Et c'est des dilemmes moraux très intéressants sur la foi. Et j'essaie de les décrire dans Dark Chronicle. Hein. Bon, il n'y a pas que ça aussi. Il y a beaucoup de blagues et il y a beaucoup d'actions. Mais voilà. C'est ça.
C'est pas juste un traité philosophique sur la foi.
Bon, non, c'est moins chiant que ça en a l'air. Voilà.
Alors c'est le cas dans les différents opus. Tu traites le langage extraterrestre de manière très particulière. Donc tu viens de mentionner notamment le fait que tu le génères à chaque partie pour que le joueur soit obligé de refaire son apprentissage quand il recommence. Est-ce que, déjà, quelle intention là-dessus tu as sur le... Est-ce que c'est pour toi juste une mécanique de jeu ou est-ce que t'as une envie plus profonde sur ce concept de qu'est-ce que peut devenir le langage, comment le langage évolue? Et est-ce que t'as eu des inspirations là-dessus? Je pense évidemment à Captain Blood.
Ouais. Alors, il y a un jeu français, Vive la France, de 1986, je crois, qui s'appelle Captain Blood. Il est pénible à jouer aujourd'hui, mais il avait ce concept très fort. Vous allez sur les planètes extraterrestres, et la même chose, les extraterrestres, vous parlez en extraterrestre et vous poussiez sur la table des concepts. Moi, je veux ton bien. Et lui disait, ok, je suis d'accord. Et ça permettait d'avoir une sorte de relation avec l'autre. Donc on a pris ce système-là, on l'a mis au goût du jour. Voilà. Et effectivement, c'était pour... en fait, quand je vous dis, c'est un jeu vidéo, vous êtes dans l'espace avec un vaisseau, vous pensez à Faster Than Light, vous pensez à des jeux où on tire avec des lasers. Et nous, on voulait pas ça. C'est trop triste de tirer sur des gens. C'est débile physiquement. Et en plus, c'est vraiment triste de tuer sur. Enfin, il faut. Enfin, si on rencontre des gens, des aliens, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, il faut leur parler. Et on voulait faire ça. Et on voulait que ce soit en deux temps, c'est-à-dire que on rencontre la personne, on comprend son langage, mais après, on est face à l'altérité totale. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le mensonge, le marchandage, même l'amour, et donc qui ont des réactions comme un insecte aurait une réaction vis-à-vis de vous, c'est-à-dire finalement ce sont pas des humains, voilà. Et c'est ce qu'on voulait, désanthropomorphiser l'alien, c'est avant tout lui donner des intentions qui sont pas ceux des humains, et ça c'est très compliqué. Voilà. C'est compliqué d'imaginer aussi des trames narratives autour de ça, mais ça se fait.
C'est ce que j'allais dire, parce que si dans Star Wars ou autre, on a plein d'extraterrestres, tous très différents, mais qui ont tous deux bras, deux jambes, des messieurs et des madames, c'est aussi que c'est plus facile.
Je suis stupéfait. Alors, vous devez aimer ce film peut-être, alors je veux pas. Mais par exemple, les Gardiens de la Galaxie, il y a un homme arbre. Et cet homme arbre, il est chasseur de primes. C'est très bizarre déjà. Enfin, même pour un Français, c'est bizarre d'être chasseur de primes. Hein. Et. Il veut gagner de l'argent, tu vois. Il dit, je veux mon million de crédits. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un homme arbre. Il a même pas de poche pour les mettre. Je veux dire, c'est fou. J'ai dit ça. Je dis, mais il y a tellement de choses à faire avec un homme arbre. Pourquoi faire ça? C'est pour ça que, j'adore cette vision de Star Trek qui est d'un monde où il n'y a pas d'argent dans le futur. Et je veux qu'elle persiste et qu'elle prospère, cette idée-là, parce que c'est moche de faire des films de science-fiction où les gens veulent tuer et avoir de l'argent. Voilà. Ce sont pas des valeurs françaises, en tout cas. Voilà. C'est pas faux. Dans Out There, alors, la morale d'Out There, c'est que quoi qu'il arrive, vous mourrez. Et il ne restera rien de vous et de vos actes. C'est-à-dire, si demain vous faites quelque chose de formidable et qu'on élève une statue en bronze, un jour elle disparaîtra. Mais c'est pas de la poésie. C'est-à-dire que la physique vous dit, l'atome de bronze a une vie limitée et elle disparaîtra. Donc tout est vain. Et je suis sorti de ma dépression. Et j'ai inventé un truc qui s'appelle... Enfin, je l'ai inventé, ça n'existe pas. C'est l'onde anthropique. Donc l'onde anthropique, c'est l'idée que quand vous faites quelque chose, n'importe quelle action, un geste, un mouvement, une pensée, elle se diffuse dans l'univers. Aujourd'hui, quand vous bougez le bras, comme vous déplacez une masse dans l'air... Vous modifiez la gravité juste à l'endroit où vous mettez votre bras. ça génère une onde gravitationnelle qui se déplace à la vitesse de la lumière et qui va très très loin. Et si on avait un détecteur suffisamment puissant, dans 2000 ans, à 2000 années-lumière de là, on saura que vous avez déplacé votre bras. Ce qui fait que tous vos gestes, tout ce que vous faites, ça se propage dans l'univers. D'une façon plus prosaïque, si vous n'arrivez pas à imaginer l'onde gravitationnelle, quand Cyril Hanouna fait une émission de télévision, et qu'elle se propage, elle va au-delà de la Terre, elle se propage dans l'espace, à la vitesse de la lumière, ce qui fait que des gens qui se trouvent à 2000 années-lumière, enfin Proxima du Centaure, par exemple, dans 4 ans, ils pourront capter Cyril Hanouna. Voilà. Et non, mais parce que on se pose pas la question, mais il y a aussi la question de la responsabilité et de la dignité humaine. Qu'est-ce qu'on envoie dans l'espace? Pourquoi pas? Parce que si des gens nous captent et essaient de nous comprendre à travers ce qu'on envoie, que pensent-ils de nous? Déjà, ils verront une société, effectivement, quand je regarde les programmes de télévision qui sont émis dans l'espace, ben, on se tue, on se venge, l'argent nous intéresse beaucoup. Voilà. Donc, j'espère que si toutefois vous travaillez dans l'astrophysique ou les médias, vous aurez un accent comme ça. Bon, du coup, j'ai inventé l'onde anthropique qui reprend le concept d'entropie physique et qui dit que quand vous faites une action, elle se propage dans l'univers. Elle existe. Je crois, enfin, dans l'univers d'Out There, j'ai également accepté le concept de transcendance. C'est-à-dire que les animaux sont amenés à évoluer et à devenir des êtres pensants, les humains. Ça, on en est à peu près sûr parce que ça nous est arrivé. Et que les humains sont amenés à évoluer et à devenir quelque chose de supérieur qui est avec un gap de conscience qui est aussi grand que nous, entre nous, l'animal et l'humain. Et ainsi de suite, dans une boucle un petit peu fractale qui va très 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 loin. Voilà. Et en gros, ça parle de... Out There Chronicle, voilà, où dans cet univers où tout n'est pas vain, ça parle de cette volonté d'évoluer, de se transcender, d'aller plus haut, et du fait que toutes nos actions, en fait, existent jusqu'au bout, jusqu'à la fin des temps. Voilà. Donc tout n'est pas vain.
Tu parlais aussi tout à l'heure de la façon dont il y avait cette nécessité de traitement de tes idées, de ce que tu écris par l'image. Est-ce que tu nous parlais un peu justement de comment s'est passé le travail graphique sur les différents opus et sur l'histoire un peu de l'univers d'Outzer dans son côté graphique?
Alors, j'ai une anecdote rigolote pour capter votre attention. En plus, c'est un petit peu sexuel. Quand on a fait le premier trailer d'Outzer, on ne savait pas du tout qu'on allait en vendre. On en a vendu plein, on en a vendu 700 000. Mais à l'époque, si on en vendait 10 000, on était content. On fait le premier trailer et Mickaël, mon associé et aussi créateur, directeur artistique, vous pourrez lui parler tout à l'heure, il fait un vaisseau en forme de pénis.
Ce qui est assez commun pour les vaisseaux.
Ouais, c'est vrai. Mais là, vraiment, ça ressemble. Et alors, moi, je le vois, tout le monde le voit, tu vois. Et je n'ose pas lui dire parce qu'il avait travaillé toute la nuit, nuit blanche, tout ça. Et on devait le rendre demain, le trailer. Et puis, il y a sa femme qui lui dit. Et il dit, pourquoi tu me l'as pas dit? Et voilà, on s'est un peu engueulé. Mais finalement, il a changé le vaisseau. On a eu un vaisseau qui ressemble un petit peu, mais pas trop. Mais c'est vrai que, regardez de près les extraterrestres qui sont exposés, clitoris, pénis, il n'y a que ça. Hein, c'est fou. Le traitement visuel des extraterrestres est compliqué. Dans Outer Chronicle, j'ai voulu piéger le joueur. C'est-à-dire que, J'ai pris un joueur humain et je l'ai mis dans un monde avec que des humains en me disant voilà, ça va être une histoire Star Wars, humain, vaisseau, comme ça. Et tout d'un coup, le jeu bascule et on se retrouve dans ce monde où l'humanité n'est qu'une fraction des espèces conscientes. Et là, tout d'un coup, ça prolifère. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses, des limaces qui parlent, des limaces à fourrure, des monstres. Et le traitement graphique est compliqué. Enfin, disons que le fait que aujourd'hui on est entouré de bactéries par exemple qu'on ne voit pas, qui sont des espèces qui interagissent, donc il y a peut-être, d'ailleurs c'est le paradoxe de Fermi je crois, des extraterrestres qui sont présents parmi nous mais avec lesquels qu'on ne peut pas percevoir ni avec lesquels on peut communiquer, mais on peut pas traiter ça visuellement, voilà. Donc il y a un entonnoir visuel qui force les créateurs à avoir une perception. Et plus le plus le dessinateur est doué, plus il a du mal à créer des choses qui sont pas anthropomorphes. C'est-à-dire que quand on a engagé Benjamin Carré, c'était très compliqué de lui dire ça ressemble trop à un cheval. Voilà. Ça ressemble trop à un loup. On veut quelque chose qui soit différent. Voilà. Quelque chose qui n'ait pas de bouche ou qui en ait trois. Ou, voilà. Mais on a eu un... Enfin, je ne sais pas. C'est compliqué. Y a pas de, on ne peut pas savoir si la vie évolue dans un autre, sur une autre planète, s'il y aura des humains. C'est peu probable, mais c'est peu probable qu'il y ait des vies carbonées aussi. Aujourd'hui, sur la Terre, il y a des vies à base de carbone et il y a des vies à base de soufre qui n'ont pas pu évoluer. Je pense qu'il peut y avoir des vies à base de bismuth, pour des raisons dont on peut parler. Donc, c'est, voilà, on va dire, on peut imaginer aussi que on a des schémas de pensée fluctuants dans la tête. En fait, c'est des neurones qui interagissent. Mais c'est des interactions qui peuvent naître des fluctuations, des courants dans les soleils, par exemple. On peut avoir peut-être des choses qui pensent dans les soleils. C'est des choses que je développe dans Outer Chronicle pour toujours travailler sur l'altérité de l'émergence de la vie. Voilà. La vie peut apparaître de toutes les façons possibles et très surprenante. Et, voilà, on est un peu limité. C'est pour ça, déjà, ne vous focalisez pas sur les armes et l'argent, parce que même quand on se focalise pas dessus, c'est compliqué d'imaginer des choses différentes.
Et du coup, dans tout ce que tu dis, on voit qu'il y a énormément de background scientifique, ou en tout cas d'essayer d'intégrer de la science. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose de personnel. Tu as envie de raconter des choses qui s'appuient. Et là, on est plus, du coup, purement dans la science-fiction. C'est-à-dire que tu veux vraiment travailler...
Alors, j'ai une formation ingénieur. En fait, ouais. Il y a une préquelle out there, pour tout dire. J'ai une amie... Enfin, non, maintenant c'est une amie, mais à l'époque c'est une artiste de la Villa Médicis. Alors, je suis spécialisé dans les livres dont vous êtes le héros. C'est ma spécialité. Et je reçois une amie, une artiste de la Villa Médicis, qui me dit : « Je voudrais faire un livre dont vous êtes le héros. » Et le thème, c'est le cosmos. Et donc, j'ai une formation d'ingénieur. Et je commence à travailler sur le cosmos pour faire quelque chose de plus collant à la réalité physique possible.
Un peu rigoureux. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et donc c'est sorti, c'est très intéressant, enfin c'est quelque chose d'intéressant qui se passe sur Proxima du Centaure, voilà. Et du coup ça a été un peu la genèse de ça. J'ai découvert un petit peu les, donc on a parlé de la désintégration du dernier proton. Avant ça, toutes les étoiles vont s'éteindre ou se transformer en trous noirs, etc. Il y a aussi un jour Michael m'appelle et il me dit : « Ce serait bien d'avoir une substance joker. Un truc, on le trouve et off, ça répare, ça fait tout, ça donne du carburant. » Ça. Alors c'était compliqué d'imaginer quelque chose de magique dans un univers très scientifique. Et j'ai pensé à, alors je l'ai pas nommé, mais j'ai pensé à la matière noire. Donc la matière noire, c'est quelque chose dont on ne sait pas trop ce que c'est. On sait que c'est pas de la matière baryonique, c'est-à-dire on sait que c'est pas des atomes. C'est quelque chose de, on ne sait pas ce que c'est. Mais on sait que E égale mc2, on sait qu'il y a une équivalence énergie à cette matière noire qu'on appelle le flot noir. Donc j'ai commencé à construire quelque chose là-dessus. Et aujourd'hui, j'essaie de décrire des phénomènes physiques à travers les yeux de gens qui voient ça comme de la magie. C'est-à-dire que donc, cette substance qu'on a appelée l'oméga, qui est en fait la matière noire, quand tu rencontres un extraterrestre, il va te dire « c'est noir, on ne sait pas ce que c'est, ça coule, mais ça peut faire ça et ça et ça. » Voilà. Et le joueur est amené à manipuler ça, peut-être parfois en le vouloir comme on voudrait avoir de l'argent, tu vois. Mais c'est quelque chose de purement scientifique et c'est la matière noire. Voilà. Sinon, les aventures, comment dire, dans Outer, vous vivez 350 aventures qui sont écrites. Et ce sont des aventures qui sont toujours liées à un phénomène astrophysique. Donc, j'ai trouvé une nébuleuse d'alcool, je vais essayer d'en boire un peu. Il y a une nébuleuse qui est, enfin, il y a une nébuleuse qui est un nuage qui est en alcool de framboise, qui a la même molécule que la framboise et l'alcool, donc c'était intéressant. Et d'ailleurs, ça nous a valu d'être cette séquence juste nous a valu d'être interdit au moins de 16 ans sur Apple parce qu'il y a de l'alcool. Quand vous allez sur une planète rocheuse, vous pouvez miner certains types de matériaux, le platine, le silicium, qui servent. Le silicium sert à créer des composants électroniques. Le platine sert de catalyseur dans les réacteurs, donc on peut créer des technologies qui sont associées aux composants qu'on trouve, qui sont des éléments de la table des périodiques des éléments. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut récupérer de l'hélium et de l'hydrogène autour des géantes gazeuses et des soleils, sans trop s'en approcher. Voilà. Et il y a on est toujours sur le bord de la mort, parce que l'exploration est quelque chose de compliqué. Voilà. Mais effectivement, et il y a aussi la grande question, on va parler du temps tout à l'heure, mais très tôt dans le jeu, le joueur trouve un moyen d'aller dans l'hyperespace, entre guillemets, c'est pas expliqué comme ça dans le jeu, il peut aller d'une planète, enfin, d'un système à l'autre, et il sait, en tant que scientifique, que l'espace et le temps sont liés, et que fatalement, ces sauts qu'il fait le rapproche de la Terre, mais l'éloigne dans le temps, parce que forcément il va dans le futur de plus en plus, et à un moment il se dit, mais en fait, je me rapproche pas, je m'éloigne. Voilà. Ça fait partie des problématiques de solitude.
Et donc justement, cette histoire de passer d'un système solaire à l'autre, etc., dans les deux jeux que j'ai pu faire pour l'instant, il y a cette notion très forte quand même de déplacement et de voyage. Alors c'est vrai que c'est commun à beaucoup de narrations, beaucoup de jeux, mais est-ce que tu as une vision particulière justement de cette implémentation du voyage dans la narration et de ce que tu veux transmettre aux joueurs à travers le voyage, et éventuellement de ce que le voyage veut dire pour toi à titre personnel?
Quand j'essaie de construire une histoire forte pour la vendre, Je me fie au mythe ancien. Voilà. Donc là, c'était l'Odyssée, excusez-moi, donc Ulysse qui veut rentrer chez lui. Et donc ça, c'est un truc fort. Il y en a une autre pour Outer Chronicle, mais ce serait un spoiler. Mais en gros, voilà. Et donc, il veut rentrer chez lui, c'est très clair. Il a un objectif. Il pense que c'est là-bas, il y va. Peut-être qu'il aura des surprises. Et ce qui est merveilleux dans la science-fiction du XXe siècle, avant les années 80, c'était l'émerveillement de la découverte. On arrive sur une autre planète et c'est cool, il y a des choses incroyables, il y a des êtres avec des propriétés fantastiques, il y a des plantes nouvelles. Et il y a ça, ben, pour parler quelque chose de Nantes, dans la littérature de Jules Verne, il y a ça, c'est l'émerveillement permanent de la nature qui nous entoure et qui est complètement désenchanté aujourd'hui. Je veux dire, Interstellar, on a l'impression qu'ils sont punis d'aller sur des autres planètes, alors qu'en fait, c'est quand même super cool. On a voulu transcrire ça, c'est-à-dire on passe, je veux dire, quand ça va mal, c'est horrible, mais alors quand c'est bien, non seulement tu trouves tout ce qu'il faut, mais en plus, tu es sur une planète fantastique, et c'est beau, et tu vis des bonnes aventures, et c'est fantastique. Voilà. Le monde est merveilleux. Vous avez vu comme je suis sorti de dépression, c'est fou. Hein. Voilà.
Et bien alors justement, le temps, parlons-en. Pourquoi et comment tu joues avec le temps à travers ces... Donc il y a cette notion d'espace-temps, vu que c'est du voyage spatial, donc déjà le temps intervient nécessairement. Mais au-delà de ça, cette histoire de se projeter aussi loin dans le futur, de jouer aussi avec les temporalités pendant la narration, sans vouloir trop spoiler, mais il se passe des choses avec le temps souvent.
Maintenant en fait, Out There, c'est devenu donc c'est un jeu très vendu. C'est un jeu avec des produits dérivés physiques aussi, une bande dessinée. Du coup, on a dû créer une bible comme les pros, c'est-à-dire un truc qui décrit l'univers en entier. Et c'est quelque chose qui commence en 2050 et qui va jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, ça couvre vraiment un grand pan de l'univers dans son histoire. Donc du coup, je ne sais pas ce qui se passera dans le futur en vrai, mais... dans le cadre de Out There, je peux vous dire voilà ce qui se passe jusqu'à vraiment au dernier moment, quoi. Et c'est donc les grandes étapes, c'est à un moment notre soleil va s'éteindre et on saura pas pourquoi, et on va construire des grandes arches pour partir dans l'espace pour sauver quelques gens qui ont été sélectionnés. Et d'ailleurs il y aura des guerres sur la Terre pour le contrôle de l'énergie pour pouvoir aller dans l'espace. Et ces arches vont faire un voyage environ, elles vont partir un petit peu dans directions différentes pour assurer la survie de l'espèce, et elles vont faire environ un voyage d'environ 1 million d'années. Toutes n'arriveront pas à décoller, toutes n'arriveront même pas à atteindre l'orbite terrestre, et toutes n'arriveront pas à avoir un destin prospère, mais en tout cas il y en a quelques-unes, celle des États-Unis, celle de la Russie et celle de l'Europe dans une autre mesure, dont c'est celle dont on connaît le destin, qui vont arriver sur des mondes qu'elles vont commencer à coloniser. Et il y a aussi, enfin, il y a une idée dominante dans Outer qui fait qu'il n'y a aucun endroit qui soit comme chez nous. C'est-à-dire une autre planète, ça sent différemment. On a un poids différent sur les épaules. Les choses n'ont pas le même goût et on ne s'y habituera jamais. Ce n'est pas chez nous. Et et ça sera très compliqué. Et le fait de se forcer psychologiquement, c'est une idée aussi qu'il y a dans, pour ceux qui ont lu ça, ces 10 000 pages, c'est dans La Compagnie des Glaces. Il y a cette idée de gens qui vont essayer de coloniser une autre planète, et même si elle ressemble à la Terre, elle est, c'est pas la Terre. Voilà. Et donc, du coup, ils peuvent pas. Et c'est un peu comme ces Français qui quittent la France en disant je vais aller ailleurs, et puis ils reviennent, ils disent, ah, c'est quand même bien la France. Et voilà, c'est ce côté-là de nostalgie forte. Et on raconte ça. Et donc, il y a toute une partie un petit peu Star Wars, très space opéra, où on voyage dans. Enfin, il se passe un certain nombre d'aventures. Et puis après, on raconte comment toutes les étoiles s'éteignent. Une par une. Alors, quand toutes les étoiles seront éteintes, il restera quand même des planètes sans lumière. Ça ne veut pas dire que la vie sera impossible. Il y a des théoriciens qui pensent que la vie sera possible parce qu'il y a quand même de la chaleur, par exemple, au cœur des planètes, par les effets de pression. Mais après, quand même, dans un très grand nombre d'années, ben, les atomes eux-mêmes ont une durée de vie limitée. Et donc, ben, dans ce cas-là, la vie sera compliquée à envisager. Alors, et on arrive quasiment dans la métaphysique. Bon, on donne une interprétation dans Out There dans lequel tout n'est pas vain et il se passera quelque chose à ce moment-là, mais malheureusement je suis un peu pessimiste, là on rentre vraiment dans la fiction. Voilà.
Et sur la notion de voyage dans le temps qui a été traitée donc de très nombreuses fois dans la fiction, qu'elle soit en livre, en film, etc., on a toujours ces problèmes de ça marche jamais en fait. Donc, est-ce que toi, tu as testé des choses dans ce domaine-là ? Est-ce que tu as des...
Eh ben, déjà, nous voyageons tous à la vitesse d'une seconde par seconde dans le futur, ce qui est bien. Nous, des bons voyageurs du temps. Effectivement, de façon très simple, la dilatation spatio-temporelle, enfin la relativité, théorie de la relativité montre que on vieillit plus lentement à l'équateur qu'au pôle Nord. On peut aller dans le futur, voilà. Cryogénie, voyage à la vitesse de la lumière, donc ça c'est quelque chose qui arrive assez souvent et qui est traité très bien dans la littérature, par exemple dans Ender's Game, c'est très très bien traité, ou King, les planètes des singes. Donc on peut voyager dans le futur. Il y a certains théoriciens physiques qui vous diront qu'on peut voyager dans le passé avec beaucoup de contorsions. C'est très compliqué, j'ai voulu écarter ça, pas de voyage dans le passé. Donc on peut voyager uniquement dans le futur, mais c'est au risque de s'isoler. Voilà. Aller dans le futur de façon anormale, c'est-à-dire faire des sauts dans le temps importants, c'est vraiment aller dans quelque chose qui sera sans retour, dans l'inconnu et l'altérité et des choses compliquées. Voilà. Je ne le conseille pas. Et c'est un thème qui a été développé dans Le Piège Diabolique, donc une BD de Blake et Mortimer, où la moralité de l'histoire, c'est on est vraiment bien à notre époque, et c'était une époque qui n'est pas la nôtre, donc sans internet, mais c'est vrai qu'on est bien à notre époque. Voilà.
Et donc solitude, voyage et science-fiction, beaucoup dans les jeux. Est-ce que du coup, dans les autres opus ou dans la façon dont tu vas décliner l'univers, maintenant que tu l'as posé, t'as d'autres messages ou d'autres envies de choses que tu veux transmettre, donc l'altérité aussi qui est manifestement quelque chose de central, mais est-ce que t'as d'autres notions que tu sais que tu vas venir apporter dans l'expérience de jeu?
Alors c'est un œuvre qui se construit jour par jour, donc je sais pas ce qui m'attendra demain dans ce travail là à l'heure actuelle. Alors à titre personnel, je travaille sur les intelligences artificielles par réseau neuronal, j'en ai une chez moi. Et c'est extraordinaire, ça parle. Enfin, c'est vraiment le. Enfin, on est dans la salle HAL, non, c'est ça?
Oui.
Ouais, c'est comme HAL, c'est-à-dire, vous avez sur un ordinateur, vous avez un truc qui vous parle, quoi. Et ça, enfin, c'est la nouvelle technologie, le machine learning, là. C'est fantastique, c'est des choses qui vous parlent. Et ça donne l'illusion de l'intelligence. Et ça me trouble beaucoup. Voilà. Je travaille là-dessus en ce moment. Et c'est sur la question de est-ce que nous-mêmes, on n'a pas l'illusion d'être intelligent, tout ça. Donc c'est un peu dickien. Et Dicker ne pouvait imaginer les intelligences artificielles, et aujourd'hui qu'on est confronté à elles, et vraiment dans un an, je pense qu'on en, enfin, on en aura à la demeure, quoi, et c'est très perturbant. Voilà, c'est mon thème d'élection. Et un autre thème que je développe aussi, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le fait de l'émergence de la vie à des endroits où on ne peut pas les imaginer. Donc j'ai parlé de fluctuations de courant dans les étoiles, par exemple. Alors, scientifiquement, quelle est la définition de la vie ? Il y a une, donc autant des philosophes comme Noam Chomsky sur la théorie de la vie et Carl Sagan, tout ça, on a décidé de dire que la vie, c'était des choses qui communiquent entre elles et qui se reproduisent. Et quand il y a ces deux conditions, on peut considérer qu'on est face à de la vie. Et du coup, on se demande si les étoiles entre elles, par la gravité, par les échanges de vent solaire, ne sont pas en train de communiquer entre elles. Voilà. Donc c'est l'émergence de la vie dans des choses qui sont insoupçonnées. Il y a aussi les fluctuations du vide, c'est-à-dire que le fait que dans le vide absolu, il y ait des particules qui peuvent surgir. Et donc des particules qui peuvent surgir à certaines configurations qui créent la vie, c'est quelque chose qui me trouble beaucoup et qui me fait me questionner sur la nature de la vie. Voilà.
Très bien. Il reste un quart d'heure. Je pense qu'on va passer aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et il doit y avoir un micro qui traîne dans la salle. Merci. Alors, des questions là-bas.
Bonjour.
Déjà, j'adore ce que vous faites.
Merci.
Juste une question par rapport au Lord Out There.
Oui.
C'est super rigoureux scientifiquement, mais comment ça se fait que toutes les races extraterrestres, elles parlent le même langage ?
Alors,
c'est à cause des juges architectes.
Non, alors, c'était nécessaire pour que ce soit un jeu jouable. Et effectivement, j'ai dû l'expliquer ensuite. Il y a l'explication dans Out There Chronicle 1. Donc, je ne vais pas la dire parce que... Voilà. Mais c'est une explication qui est... Enfin, effectivement, tous les extraterrestres ont une sorte de lingua franca qui leur permettent d'inspirer un peu du chinois. C'est-à-dire, ils disent « moi, vouloir ça ». Donc, ils parlent avec en balançant des concepts comme ça. Et il faut comprendre ce qu'ils veulent dire. J'ai essayé de faire le plus simple possible. Voilà.
Une
autre question là.
Ici.
Oui.
Dans les médias généraux et dans les jeux vidéo. Et vous voulez savoir si vous ne pensez pas que ce sera un gros frein dans tous les médias, que ce soit jeux vidéo, livres, tout ça, de toujours avoir des races, pour les extraterrestres, des races extraterrestres qui sont des humains, des animaux qui ressemblent aux animaux.
Ouais. J'ai parlé des Gardiens de la Galaxie tout à l'heure. La deuxième fois où j'ai été déçu en regardant ce film, c'est que ils sont tous humains. Mais ils sont rouges ou verts, mais ils sont humains, tu vois. Sauf les quatre héros, là. Et à un moment, ils disent, ils vont dans un contrebandier d'espèces extraterrestres. J'ai dit, ah, super, on va en voir plein. Et là, on voit un chien, tu vois. Et je dis, merde, moi qui voulais du dépaysement. Et même à un moment, ils vont il y a une station creusée dans le squelette d'un dieu. Je dis, waouh, c'est quoi? Et en fait, c'est un squelette d'un humain géant. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi d'avoir, j'ai beaucoup tapé sur les Américains aujourd'hui. Mais je continue. Ça, c'est, l'incapacité des producteurs américains à imaginer. Déjà, ils ont du mal à imaginer que la France existe. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils imaginent? Qu'il y ait autre chose que l'homme qui existe? C'est effectivement un anthropocentrisme qui est lié à la bêtise. Mais les gens vont pas aller chercher plus loin. Hein. Et puis après, je pense que c'est compliqué de faire. Il y a le alien de Alien qui est très particulier, qui est très sexuel aussi. C'est marrant. Oui. Encore une fois, quand on crée un autre alien, il a une apparence un petit peu sexuelle. Mais des aliens qui ont des apparences sexuelles, c'est encore de l'anthropomorphisation, tu vois. Et c'est un exercice compliqué, mais il n'y a pas eu d'études. Et je vous invite à tester sur Google Images, chercher des images d'aliens qui ne ressemblent pas à aliens déjà, mais en plus qui ne ressemblent pas à des humains. C'est très très difficile. Si vous êtes des professionnels de ça, si vous arrivez à faire ça, à titre personnel, ça m'intéresse. Et je pense que ça intéresserait plein de gens. Alors, pour répondre à ta question, peut-être que simplement la compétence à imaginer des races aliens qui ne sont pas des hommes n'existe pas ou a été oubliée parce que c'était quelque chose qu'on faisait dans l'ancien temps.
Par contre, est-ce que c'est un frein, j'ai envie de dire, demande aux grosses licences Star Wars et Guardians of the Galaxy et autres, ça les freine pas trop financièrement en tout cas.
Après Mass Effect, parce que je connais bien le monde du jeu vidéo, comme les animations et les cutscenes sont faits par des acteurs humains, à un moment il faut un alien dans lequel on peut mettre un ou deux humains, tu vois, donc c'est compliqué de faire autre chose.
D'autres questions? Il y en avait par
là. Question là.
Là.
Ouais, là.
Vous parliez tout à l'heure d'espèces transcendantes.
Oui.
Donc de la même façon que l'homme transcende un peu l'animal, mais
oui.
Pour un animal, c'est assez difficile, je pense, d'imaginer l'intelligence humaine.
Oui.
Et alors, vous, en tant qu'humain, comment est-ce que vous avez fait pour imaginer l'intelligence supérieure?
Es-tu humain, Fibre?
J'aime beaucoup les mathématiques et je tiens un podcast sur les mathématiques. Et j'aime beaucoup le concept de dimension. Donc le cercle, cercle de dimension 1, en dimension 2 donne la sphère, et en dimension 3 donne la boule, voilà. Et figurez-vous qu'il y a des dimensions décimales, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sphères de dimension 5,3. Et la sphère de dimension 5,3, je vous en parle parce qu'elle est très, très, très intéressante, parce qu'elle elle est plus grosse que la sphère de dimension 6 et plus grosse que la sphère de dimension 5. Voilà. C'est-à-dire que la sphère atteint un maximum de volume par rapport à sa surface en dimension décimale. Voilà. Tout ça pour dire que, en fait, dans Outer Chronicle, et c'est expliqué, on note les échelles de transcendance minérale, végétale, animale, humain, enfin sentient, et Dieu de Dieu, en dimension. Et on considère d'ailleurs que les intelligences artificielles presque divines, ont des dimensions décimales de grandeur. Elles sont un peu en dessous des dieux, mais elles sont supérieures aux hommes. Et on ne peut pas imaginer ça. C'est-à-dire que justement, il y a des dieux de Dieu dans Outer Chronicle qui s'appellent les juges architectes, qui éteignent les soleils. Ils les éteignent pour préserver le plus longtemps possible la structure de l'univers pour pas qu'elle s'effondre ou qu'il y ait une mort thermique plus rapide. Ce faisant, de la même façon que quand on terrasse une maison, on peut écraser une fourmilière, ce faisant, bah, parfois ils éteignent notre soleil et ils anéantissent une civilisation, mais ça n'a pas d'importance, ils ont un objectif supérieur. Donc il y a même une race qui s'appelle les Aleph qui est sur le point de se transcender, qui se retient de se transcender parce qu'elle veut régler ses affaires avant de partir, et elle sait que quand elle sera partie, ça n'aura plus d'importance. Donc on matérialise le gap, et c'est quelque chose d'extrêmement stimulant à imaginer. Voilà.
Il y a d'autres questions?
Vas-y, il n'y a pas de micro, donc tu peux, micro, tu lèves la voix. Alors ça, c'est pour le jeu. Franchement, on a sorti Outer, j'avais plus d'argent. Il fallait payer le loyer. On avait 4 décors et il n'y avait pas grand-chose dans le jeu. Et on s'est dit, on va le rendre difficile parce que comme ça, les gens verront pas qu'il n'y a rien dans le jeu, tu vois. Ils ont la tête sous l'eau et j'ai besoin d'oxygène. On va pas dire les décors sont moches parce que t'as besoin d'oxygène pour réussir. Et c'était vraiment ça. Et du coup, ça a bien marché. Donc retenez cette technique, voilà.
D'autres questions sur l'univers d'Outzer?
Non.
Non, pas pour l'instant. Ah, peut-être qu'il y a d'autres informations à nous donner sur ce que
tu... Ah, monsieur a une...
Est-ce qu'il y a... Oh, ça marche.
Ah.
Est-ce que peut-être que maintenant il y a un peu plus de budget pour rendre le jeu du coup plus facile?
Alors... Effectivement, on a sorti le jeu et il a très bien marché. Et on a gagné de l'argent. Et on a consacré un an à le rendre plus joli, et aussi on a fait un mode facile, et d'ailleurs les gens ils disent je vais pas jouer au mode facile, et en fait jouer au mode facile parce que le mode normal est vraiment difficile, voilà. Donc, mais par contre Outer Chronicle qu'on présente, c'est un jeu assez facile, voilà. C'est une balade dans l'univers du futur, on parle de races qui se transcendent et de solitude, et voilà.
Et d'ailleurs, donc tu as fait le premier opus avec des contraintes donc particulières qui l'ont rendu très difficile.
C'est toujours en jeu vidéo, c'est toujours difficile. Hein.
Bien sûr, sinon c'est pas intéressant.
C'était 1 million d'euros ou 0 euros, c'est l'enfer.
Mais comment tu envisages en fait un éventuel Outzer 2, pas Chronicle?
Ce serait mentir de dire qu'on n'y pense pas beaucoup et qu'on n'a même pas des. Alors ce serait malheureusement un jeu beaucoup plus raconté.
Pourquoi malheureusement?
Parce que avant qu'il y ait le Seigneur des Anneaux en film, tout le monde avait son golem. Je sais pas si vous avez, il y a une dessinatrice de golem, une dessinatrice qui s'appelle Tove Jansson qui a fait les Moomins. Et elle a dessiné un golem qui était fantastique. C'était un espèce de grand canard dans une mare. Il avait un chapeau chinois. Et c'est le golem de Tove Jansson. Aujourd'hui, golem, vous avez vu le film du Seigneur des Anneaux. C'est golem. Et en fait, plus on raconte une chose, plus il se matérialise dans une unique forme qui appartient à la culture générale. Et donc, aujourd'hui, avant, il y avait 1 million d'outdoors parce qu'on avait une narration un petit peu énigmatique. Et plus on aura de budget, plus on sera ambitieux, plus on va faire d'itérations, plus le jeu, il y aura des personnages figés qui auront des noms, des backgrounds, des histoires. Il y aura peut-être des fans qui en parleront, tout ça. Et malheureusement, plus il sera précis, quoi. Voilà. C'est quelque chose que je regrette un peu, mais c'est la marche du capitalisme. Voilà. Avant de lire Harry Potter, vous aviez tous votre vision de Hermione ou enfin, quand vous lisiez Harry Potter et quand il y a eu les films, tout d'un coup, ils se sont figés et c'est difficile d'imaginer Harry Potter autre que dans l'acteur aux petites lunettes qu'on avait, quoi. Voilà. C'est la matérialisation de la culture. Voilà.
Donc là pour l'instant on a parlé d'Outzer, évidemment tu fais d'autres projets de jeu. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement et puis éventuellement dire s'il y a soit des liens directs avec ce que tu as fait dans Outzer, genre des idées que tu aurais voulu prolonger mais qui n'est pas dans Outzer, ou est-ce que au contraire c'est un espace pour faire d'autres choses complètement?
Alors nous sortons en début d'année prochaine Outzer Chronicle 2, un autre jeu qui s'appelle Antioch, un polar, et un jeu qui s'appelle Sigma Theory qui a un lien avec Outzer. Je peux pas dire lequel, mais voilà. Et Sigma Theory, c'est un jeu d'espionnage dans un futur proche. Ça fait 4 ans qu'on est dessus. Et je veux dire pourquoi on met autant de temps. C'est que c'est un jeu d'espionnage dans un monde contemporain. Et quand j'ai commencé à écrire, il n'y avait pas encore les attentats de Charlie. Et l'ennemi, c'était Al-Qaïda. Aujourd'hui, Al-Qaïda, c'est quasiment des amis parce qu'ils sont contre Daesh. Et alors, il s'est passé tellement de trucs, à chaque fois j'ai dû tout réécrire. C'est-à-dire, les attentats de Charlie, ben, on est obligé de parler des attentats, on est obligé de parler de Daesh du jour au lendemain. Et puis tout d'un coup, il y avait Barack Obama et maintenant il y a Donald Trump. Les États-Unis ont une autre façon d'agir au niveau géopolitique, tu vois. Et l'actualité fait que on essaie de rattraper en permanence. C'est pour ça qu'on a un temps de développement très grand. Mais enfin, on a figé les choses là et on va pouvoir le lancer l'année prochaine. Voilà.
Et tu veux dire que l'écriture dans un futur proche est beaucoup plus conditionnée par ce qui se passe et du coup tu es un peu sous pression de ce qui pourrait se passer avant que ça sorte?
Imagine tu fais un jeu, imagine on déterre un jeu politique avant la chute du mur de Berlin et tu vois que il y a une Allemagne divisée, tu vois que la Russie c'est une espèce de surpuissance communiste. Je te raconte ça aujourd'hui, tu me dis c'est une dystopie. Non, c'était 1988, tu vois. Et il y a eu des jeux en 1988 qui parlaient de ça. Donc c'est compliqué de parler de thèmes d'actualité avec une actualité qui va si vite. Voilà.
Mais est-ce qu'on a besoin du coup de se raccrocher, de s'appuyer vraiment sur du réel pour faire ça?
Ah mais c'est cool. Voilà. C'est cool d'allumer les infos et de dire. En fait, le jeu vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait passer des messages. Dans Outdoor, on fait passer le message que l'espace, c'est pas des lasers et c'est pas tuer des gens, c'est quelque chose qui est déjà compliqué et hostile. Et voilà. Et dans Sigma Theory, on voulait faire passer plusieurs messages. Le message fondamental qui est que quand vous avez des responsabilités géopolitiques, toutes les décisions sont mauvaises. On vous présente 3 choix et à chaque fois, il faut faire un essai nucléaire. On le fait où? On le fait chez nous? On le fait chez des amis? On le fait en Antarctique, tu vois? Les 3 choix sont mauvais, mais il faut le faire, tu vois? Et c'est la philosophie de... C'est ce qu'on veut montrer dans Sigma Theory. Dans Sigma Theory, on veut montrer, si tu veux, par exemple... tu veux faire une opération au Pakistan. Ils sont pas vraiment des amis. Tu veux, et là, tu as des tigres tamouls qui sont des terroristes locaux qui te disent, bon, si vous nous fournissez un peu des armes, on peut foutre le bordel et vous pourrez faire vos opérations. C'est le Pakistan, tu t'en fous. Tu fais ça. Et en fait, en suivant cette logique, donc on a instauré cette mécanique, et en suivant cette logique, tu peux mener une guerre en Afghanistan en étant les États-Unis. Tu peux avoir un groupe islamiste qui te dit allez, vous faites une guerre en Afghanistan, donnez-nous des armes, on va vous aider. Tu les donnes, et finalement, ils font un attentat contre les Twin Towers, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. C'est-à-dire que les mecs, c'était tes amis, parce que ce sont des fous, ils se retournent contre toi à un moment. Et on veut que le joueur, de façon hyper naturelle, hyper. Tout est logique dans ses décisions, il dit c'est ça le mieux pour moi, il se retrouve dans la situation de créer son propre 9 septembre, tu vois. Parce que. 11 septembre, excusez-moi. Parce que, effectivement, c'est une suite d'actions logiques. C'était les meilleures décisions qu'ils ont prises à chaque fois, mais quand on est face à des fous et à des mécaniques hyper, enfin incontrôlables, ben, l'inévitable arrive. Voilà. Mais la vie est un jeu où on perd.
Est-ce qu'il y a une dernière question ou sinon on peut en rester là? Et le jeu, enfin les jeux Outzer Chronicles sont présentés sur le stand à l'entrée, ainsi qu'un.
Vous pouvez les tester.
Une exposition d'artwork réalisée par Benjamin Carré entre autres et
qui est un illustrateur nantais.
Tout à fait. Et vous pouvez également discuter avec Fibre Tigre. Tu pars demain.
Je pars demain, donc je suis là jusqu'à demain soir.
Voilà. Voilà. Donc si vous voulez discuter avec Fibre, eh bien, non, profitez-en.
Ce soir, à 19h, aussi, on fait une conférence sur la narration procédurale, c'est-à-dire comment raconter des histoires à partir de rien. Enfin, techniquement, avec, on ne les imagine pas, c'est des ordinateurs qui les fabriquent. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à tous.